Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co. Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 322 et on va aborder un sujet qu'on avait déjà abordé mais qui s'est nourri de plein d'informations complémentaires. Les jeunes, alors on parle des générations Z, on parle des milléniums, des générations alpha, des générations bêta même aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on met derrière tous ces mots-là? Et en formation, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on forme un jeune pareil qu'un senior? Est-ce qu'il y a des vraies différences? Donc, pour aborder ce sujet-là, il fallait un spécialiste. Et pendant longtemps, ça a été le spécialiste en France des générations Z. C'était Éric Delcroix avec Iseult, qui au début, pour ceux qui s'en rappellent, était venu en présentiel. Donc, pour nous dire qu'en tant que génération Z, comment est-ce qu'elle vivait les choses? Et puis maintenant, effectivement, comme chaque année, elle vieillit. Donc, ça permet d'avoir du recul, de la perspective, et donc de nous parler de cette génération qui est très importante à comprendre pour justement être capable d'avoir des stratégies intelligentes dans la formation. Bonjour, Isolte et Eric.
Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, démarrons de suite. D'abord, peut-être poser le cadre. Comment est-ce qu'on organise les générations? Parce qu'il y a plein de noms qui apparaissent. Ça correspond à quoi en termes de date?
Alors, les générations, alors, en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que certains sociologues critiquent cette notion de génération.
Absolument.
Donc, ce n'est pas des strates réelles, ce n'est pas des groupes particuliers, etc. Mais ce qui est admis de manière générale, si je prends simplement les dernières générations, je ne vais pas parler des baby boomers, des
Génération
générations connues,
silencieuse.
les vieux comme nous. Donc, on va démarrer sur la génération Z, c'est ceux qui sont nés entre 95, 1995 et 2010. Une génération, normalement, c'est 15 ans, actuellement, parce qu'avant, c'était un peu plus. Actuellement, c'est 15 ans. Alors, il y a peut-être un dilemme sur la dernière génération qui serait peut-être un peu plus courte à nouveau. Mais bon, il y a un danger de réduire au fur et à mesure. Donc, on a la génération Z 95, 2010. 2010-2025, c'est la génération Alpha. Puisqu'on a démarré sur la lettre A.
Ouais, c'est ça, quand on arrive à Z, il faut bien trouver autre chose, hein.
Donc, la prochaine qui se prépare, c'est la génération Beta. Alors, certains considèrent que la génération Beta, c'est un peu plus tôt. Que 2015, 2025,
2025.
pardon, que 2025, bon, bref,
Alors, souvent, pour régler le problème de la génération bêta, c'est vrai que tu as raison, les sociologues, c'est très ouvert. Il y a plusieurs façons de lecture sur les comportements. Les bêta, ça serait ceux qui sont nés dans le Covid, donc avec le fait de vivre dans un monde qui est enfermé, ou anti-génération Netflix pour être moins stigmatisant. Et donc, ça aurait des comportements qui. Quand on verra, parce que ça démarre juste, hein, je veux dire, pour ceux qui le pensent comme ça, derrière, ça aura des comportements d'apprentissage et de relations au numérique qui seront différents.
Mais disons que à chaque génération correspond certains gros événements au niveau sociétal. On avait eu par exemple 2001 avec les tours aux États-Unis. On a eu la crise au début des années 2000, etc. C'est ce qui marquait en fait la génération Z. Est-ce que le Covid marque la génération Z? Ils sont toujours dedans en fait, hein, quasiment le 2010, ils ont 10 ans simplement quand il y a eu le Covid. Bon, c'est vrai qu'il y a une nouveauté, mais 10 ans quand il y a le Covid, ça fait génération alpha, quoi. Ça fait pas, pour moi, ça fait pas des bêta directement, quoi. Et ça fait partie de leur cursus à eux qu'ils auront eu.
Et donc les Z par rapport au Y ou par rapport au X, souvent c'est les deux références, qu'est-ce qui change vraiment chez les Z?
Oh là là! Je dis oh là là, parce que c'est plein, plein, plein de choses. C'est très marrant d'ailleurs, parce que quand j'avais fait le blog
Est-ce
générationz.fr,
qu'il est toujours disponible comme blog?
ah oui, il est toujours en ligne, hein, il n'est
D'accord.
pas réactualisé, mais il est toujours en ligne.
D'accord, très bien.
À l'époque, j'ai eu quelques personnes qui m'ont attaqué, parce qu'il y a un déni complet sur la génération Z, en disant la génération Z n'existe pas. Et ce qui est très marrant, et j'ai. Alors, je suis à la retraite maintenant, donc je me dis, je m'embête plus avec tout ça. Mais ce qui était très marrant, c'est que je vois ce qu'on a écrit il y a 10 ans, il y a 15 ans maintenant, quasiment, qui est en train de se passer. On cherche des explications, on s'étonne de choses. Et ben non, il n'y a rien d'étonnant, quoi. On sait depuis longtemps que ça va être comme ça. Et donc, c'est des comportements, dans les choses énormes qu'il y a, ils ne vont pas travailler avec des horaires 8 heures, 16 heures. Ce n'est pas dans leur mentalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez eux. Ils ne vont pas avoir un seul boulot, ils vont avoir plusieurs boulots. Ils vont se lâcher entre eux
Mais
différents.
alors, si on reprend la même idée, finalement, au début du siècle dernier, quand les agriculteurs sont rentrés dans l'industrie, ce n'était pas leur came de respecter des heures précises, ils étaient plutôt sur des cycles des saisons, et ils sont rentrés comme tout le monde. Est-ce que les générations Z ne vont pas faire comme tout le monde, faire ce qu'on leur demande, finalement?
Quand on voit comment ça se passe au niveau de l'entrée dans les sociétés déjà, en fait, ils sont hyper exigeants, quoi. Ils ont leur directive à eux. C'est comme ça qu'on travaille, c'est pas autrement. Moi, je suis dans cet axe-là, je veux pas fonctionner autrement. En plus de ça, nous, à la maison, on travaille sur des projets communs. On a notamment un truc qui s'appelle la cuisine de Mémé Monique. Et c'est vrai qu'on a des approches qui sont mais diamétralement opposées, quoi, des manières de fonctionner qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Faut pas oublier non plus qu'on a Clara qui est déjà intervenue pour aussi sur l'apprentissage des langues.
Absolument.
Et
Et
tous les
donc,
trois.
est-ce que c'est du père à père ou c'est le père qui prend le lead?
Ah non, 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 le père,
Non,
il prend pas le lead du tout, quoi.
non. Ouais, très bien.
Le père, il gère comme il peut, en faisant ce qu'il peut, quoi. C'est très frustrant d'ailleurs parfois parce que justement on a l'habitude, notre système ancestral de direction et ça marche pas du tout comme ça avec eux. Mais ça fait longtemps que je le sais donc ça va, j'arrive à négocier. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des énormes différences. Juste une petite remarque comme on parle de l'ensemble des générations. Il faut savoir que moi ça devait être en 2015 à peu près, j'ai eu un coup de téléphone du journaliste. Canadienne, qui me posait la question en me disant est-ce que vous êtes au courant de l'influence qu'a la génération alpha sur les achats de leurs parents? Parce que donc, tu avais des gamins qui avaient 5 ans à l'époque, pour les plus âgés, qui avaient, selon certaines études, une influence sur l'achat des bijoux de leur mère.
D'accord.
Et en fait, la génération Z, c'est la première à avoir eu une influence sur l'achat au niveau des familles, de l'électroménager, de plein de trucks. Avant, moi, je n'aurais jamais dit à mes parents, non, il ne faut pas acheter ça, il faut acheter ce truc-là. Alors que la génération Z a déjà commencé. Donc, je pense que la génération alpha, moi, je connais beaucoup moins parce que je n'ai jamais étudié. Je pense que la génération alpha va être un amplificateur encore plus de ce qui se passait au niveau de la génération Z. Et il faut se rappeler que la génération Z est un amplificateur aussi de ce qui se passait au niveau de la génération Y.
Bien sûr. Et alors, ça amplifie dans quel sens?
Par exemple, au niveau d'Internet ou des choses comme ça. Il y avait des trucs marrants.
Donc, les alphas sont nés avec les smartphones.
Ils sont même déjà les Z sont nés avec les smartphones.
Ah non, on n'existait pas quand on est né. Enfin,
Pas
pour
quand
la
tu es
fin. Moi,
né,
pas. Mais
mais
pour
les
la
plus
fin, ouais.
âgés, oui.
Ouais, mais
Et
même
vous avez connu ça?
quand tu regardes maintenant. À l'école primaire, les enfants, ils ont des téléphones.
Oui,
Moi, au
et des réseaux
collège,
sociaux?
voilà, mais moi, au collège, j'avais pas de téléphone. Et on va dire, oui, je faisais partie d'une minorité sans avoir de téléphone, mais j'avais les réseaux sociaux à partir de 13 ans. Mais maintenant, c'est absolument plus le cas. Enfin, ils sont tous sur TikTok ou YouTube, etc. Parce que c'est la même chose. Après, ça évolue aussi très vite au niveau des réseaux sociaux. Là, je voyais que par exemple au Canada, les jeunes sont plus, enfin certains jeunes sont plus très amis entre guillemets avec TikTok parce que c'est chinois.
Oui.
Ça a des conséquences derrière et du coup ils reviennent plus au YouTube Short, donc ce qui est un format de vidéo court sur YouTube en fait. Donc on revient à YouTube en fait, alors qu'il y a 5 à 10 ans, YouTube on n'entendait quasiment plus parler, on disait que ça allait mourir quoi.
D'accord. C'est vrai qu'il y a une dimension politique importante. Et donc, ça veut dire qu'ils ont un rapport différent au collectif. Ils ne sont plus tout seuls dans leur famille. C'est une famille élargie quelque part.
Bon, pas seulement, je crois que c'est des comportements génériques qui quelque part nous dépassent. Il y a une émission en ce moment à la télé sur différentes périodes de l'école.
D'accord.
Je ne sais pas si tu l'as vu, et dedans, il parlait des années 50.
Oui, absolument.
Et il y a une réflexion des gamins qui sont, on est patriotique, on ira défendre la France. Et tu as le prof actuel, qui jouait le jeu du prof ancien, qui dit, mais moi, à mon époque, personne n'aurait pensé d'aller défendre la patrie. Pas dans nos chromosomes, c'est pas chez nous. Et tous les gamins maintenant, ils sont tous au garde à vous de tous les côtés, quoi. Et même moi, ça me fait sourire parfois en disant, mais alors, tu as leur environnement, hein, tu as les parents, etc. Tu as l'équipe de France qui joue, tu as tout le monde qui chante la Marseillaise, Enco. Mais ça prend une proportion qui est énorme par rapport à ce qui se passait avant. Et c'est pas simplement le fait d'avoir des copains. C'est, je pense, la mentalité quelque part qui existe par rapport aux informations, parce qu'ils sont très informés en règle générale. Et c'est pour ça qu'ils ont des moyens d'existence qui sont différents des nôtres. Donc on
Mais
a des repères qui sont
tu
différents.
retrouves un peu ça dans toutes les générations, finalement, quand tu vois le retour des nations pour le besoin de protection, tu le retrouves quel que soit l'âge.
Ben non, parce que moi, pour ma génération à moi, le besoin des nations, on ne l'avait pas beaucoup, quoi.
À l'époque, mais aujourd'hui, on retrouve, il y a beaucoup de
Aujourd'hui,
personnes
dans le
plus
monde,
âgées.
dans le cycle universel, oui. Mais donc, eux sont. C'est pour ça aussi que c'est l'intérêt d'avoir des générations. Parce qu'en fait, la génération alpha, par exemple, est en plein dedans, quoi. Tu vas avoir des supranationalistes de tous les côtés avec la génération alpha. Mais la génération diseux, c'est on est super écolo. On
Oui,
est super
absolument.
écolo. Et le deuxième truc, c'était que je réagissais quand j'avais les cours sur ça.
Le tri des déchets.
Non, pas les trucs de déchets, le monde équitable, je sais plus quoi. Ouais, le monde équitable, etc. Mais donc, si tu veux, c'est typiquement leur génération.
Oui, défendre la planète, absolument. Mais
Ouais,
alors,
quoi.
quand on voit, beaucoup de personnes disent, c'était comment est-ce qu'il s'appelait Démurger, je crois, Michel Démurger, qui disait la fabrique des crétins. Est-ce que finalement, les jeunes, parce que c'est ce qu'on entend aussi, alors c'est souvent les vieux qui disent ça, hein, on est d'accord, donc Iseult le dira, mais est-ce que finalement, est-ce que les jeunes ne sont pas plus bêtes que les gens à notre époque? Quand on voit, par exemple, il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, 46% des jeunes ne faisaient pas la connexion, même quand on leur disait, entre 1989, donc la Révolution française, et la Révolution française. Donc ça veut dire qu'ils ne savaient pas la resituer, alors que
Mais
c'est quelque chose qui est important pour des gens plus anciens.
je pense qu'on a des centres d'intérêt où on n'aura pas besoin d'approfondir, mais en fait, comme ça va nous intéresser comparé à d'autres générations, on va vachement plus creuser et on va avoir une connaissance bien plus large de ce sujet-là. Et il y a des trucs qui pour vous seront des basiques que bah, clairement ça va nous passer à côté et ça ne va pas du tout nous intéresser. On ne va pas chercher à savoir les dates. Et si ce n'est pas notre dada, dans un sens, on va pas s'y intéresser, quoi. Enfin, faut qu'il y ait cette notion d'intérêt, quoi.
Je pense qu'il y a moi, je l'exprimerai autrement, disant qu'il y a une perte totale de la culture générale. Mais est-ce que c'est dû aux gamins proprement dit et à leur génération, etc., ou est-ce que c'est dû à l'enseignement qu'ils ont eu? Ça, c'est mon premier souci que j'ai. Par contre, ils savent très bien se renseigner dès que ça les intéresse, ou dès qu'ils sont concernés. C'est pour ça aussi qu'on voit apparaître les questionnements en disant est-ce que ça sert encore autant de faire des maths en école primaire ou au collège? En fait, on n'a pas besoin d'avoir tout cet enseignement de maths, sauf pour celui qui veut devenir mathématicien.
Mais
Et oui.
c'est parce que je veux dire un truc par rapport aux maths. Mais par exemple, par rapport aux maths, il y en a beaucoup qui râlent en disant, mais en fait, on aimerait avoir des choses plus concrètes. Calculer ta remise quand tu fais un devis, calculer ton budget
Oui,
mensuel,
c'est
tes
sûr.
cours pour savoir faire les pourcentages, savoir faire les pourcentages d'un, par exemple, ce que tu vas mettre sur ton livret A, combien ça va te rapporter, comment ça fonctionne. Des choses vachement plus concrètes en fait, parce que tu as beaucoup de maths qui sont enseignées à l'école, que c'est abstrait et tu vas jamais t'en servir. Après, oui, il y a des choses que tu peux recalquer dans ta vie future d'adulte ou professionnelle, mais il y a des trucs clairement, même moi que j'ai appris en maths, ça m'est rentré par une oreille et ça m'est ressorti. Je m'en suis jamais resservie concrètement. Mais c'est vrai que tu as beaucoup de jeunes qui aimeraient que ça soit plus concret. Même, bon, vas-y.
Mais j'ai assisté à une scène à la maison il y a quelques jours Il fallait chercher justement un pourcentage d'augmentation, enfin d'augmentation, de diminution, je ne sais plus. Et il y avait une formule de calcul à trouver. Et tu as eu Clara et Iso, chacune en train de réfléchir. Donc il y en a une qui dit, non, non, mais attends, moi je l'ai appris, je m'en rappelais toute seule. Et tu as la deuxième qui dit, bah, pose la question à ChatGPT. Voilà. Au final, est-ce qu'il vaut mieux l'avoir en mémoire, toi, pour savoir le calculer, pour t'en rappeler, ou est-ce qu'il vaut mieux passer par ChatGPT qui te donne la formule qui soit faite? À partir du moment où tu as un apprentissage de ChatGPT, que tu sais que ChatGPT ne dit pas foncièrement toute la vérité tout le temps,
Bien sûr.
tu peux le manipuler, mais au résultat, si je regarde le résultat final est que j'ai ma solution d'un côté ou de l'autre.
Ça,
Si à la
c'est parce qu'ils ont, parce que tes filles ont l'habitude, ont une facilité à sortir de là. Mais quand on regarde les teams qui évaluent, par exemple, les mathématiques, on baisse de plus en plus dans les classements de l'OCDE. Ça veut dire que même si on a eu des médailles Fields, donc des gens très bien, donc des prix Nobel de mathématiques à un moment, bah ça veut dire qu'en fait on s'est effondré. Et derrière, quand on doit travailler les algorithmes, bah ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un certain niveau collectif, que par exemple le sud-est asiatique a beaucoup plus que nous, alors qu'en fait ils font des anciens systèmes, alors que nous on dit bah chacun fait un peu ce qu'il veut, puis à la fin c'est un peu n'importe quoi.
Oui, mais tu le retrouves également en français. Moi, j'avais été choqué
Absolument.
à une époque parce que je ne sais plus si c'était une prof à ISE ou
Ça
à...
marche
C'est à
pas.
toi.
Le livre que tu veux raconter.
Le livre,
Oh,
oui.
ok, qu'est-ce qu'on dit?
Il fallait que les enfants lisent un livre. Puis on a une grosse... Et ici, bah, je dis, bah, on a le Robinson Crusoe. Et la prof qui me dit, mais il ne faut pas lui donner Robinson Crusoe dans sa version originale. Elle ne saura pas le lire. Robinson Crusoe, quoi. Et donc, tu as des versions désormais qui ont été enfin, des
Oui,
réécritures de
exactement.
Robinson Crusoe qui sont destinées spécialement aux gamins parce qu'ils pourront comprendre. Et pour moi, c'est aberrant. Tu
Ça
commences à...
manque d'ambition.
Ah, mais complètement. C'est-à-dire on nivelle par le bas. Et comme on nivelle par le bas, ben, moi, Iseu notamment, mais Clara aussi, n'arrête pas de râler en me disant t'es trop exigeant. Mais honnêtement, je suis pas trop exigeant, quoi.
Bien sûr. Oui, c'est ce que dit chaque génération, quoi.
J'ai un certain niveau d'exigence. Quand je fais quelque chose, je me dis, bah oui, mais on pouvait peut-être faire encore mieux, mais que j'applique à moi-même aussi. Hein. C'est
Bien sûr.
pas seulement sur les autres.
Socrate disait déjà à l'époque que les jeunes, c'était plus ce que c'était, quoi. Tout fichait le
Voilà.
camp, quoi.
Mais donc, on retrouve bien ce phénomène-là également.
Mais ça veut dire que aujourd'hui, quand on prend les générations alpha, elles rentrent, ou les générations Z, elles prennent des postes à responsabilité maintenant, vu l'âge. Donc ça veut dire qu'elles rentrent dans l'entreprise, donc elles deviennent leaders de l'entreprise. Est-ce que ça change vraiment ou est-ce qu'elles sont rentrées dans le moule?
Ah non, ça change. Par exemple, moi, je connais quelqu'un qui est rentré dans une grosse entreprise, quoi, qui est une filiale d'une entreprise cotée en bourse. Et en fait, à l'entretien d'embauche, on lui a dit, bah, tu pourras faire ça, ça, ça. Donc, ce qui lui plaisait en termes d'initiative, etc. En moins d'un an après, bah, en fait, elle s'est rendue compte que c'était complètement pipeau. Un an après, elle est partie. Elle a fait une rupture conventionnelle, elle est partie. Et enfin, ça ne dérange pas. Les jeunes qui rentrent dans une nouvelle entreprise, deux ans après, partir, aller voir ailleurs parce que, enfin, pour plein de raisons diverses et variées. Moi, j'ai une amie qui est rentrée dans le domaine de la communication dans une boîte de jeux vidéo et là, ça commence à la gonfler les jeux vidéo, donc elle va chercher dans un autre domaine, en fait, dans la communication parce que ça la saoule, quoi. Et c'est vrai que c'est dans un sens, on va faire en fonction de ce qu'on aime et on va pas faire un truc qui nous saoule, il n'y a pas d'intérêt, enfin, on sera pas performant et on sera pas ça sera pas bien pour nous et puis notre travail il sera pas fait de manière consciencieuse alors que si on est un peu c'est fait un peu à notre sauce etc. ça va largement nous plaire et faut pas enfin t'as une notion de confiance aussi là par exemple la fille qu'on lui a dit à l'entretien d'embauche tu pourras faire ça 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 puis qu'après ça ne s'est pas fait. Bah, le lien de confiance a été complètement rompu avec l'entreprise. Donc, clairement, bah, elle avait qu'une hâte, c'était de partir. Et puis, même ce que je peux dire, c'est qu'une fois qu'elle est partie, il y a eu des problèmes en interne parce que les transmissions n'ont pas été faites. Il manquait des mots de passe des réseaux sociaux. Il y a des contenus qui ont été... Enfin, ça a eu énormément d'impact au niveau de l'entreprise derrière, quoi. Donc, il y a eu un coût en plus de devoir retrouver quelqu'un qui faisait son boulot, quoi.
Oui,
Là.
une expérience qui était un peu amusante, il y a 2-3 ans. J'ai des étudiantes qui m'appellent pour m'interviewer au sujet de leur mémoire qu'elles faisaient. Et je ne sais plus exactement le titre du mémoire, mais grosso modo, c'était comment les entreprises peuvent proposer des choses aux jeunes pour qu'ils puissent rester pendant plusieurs années dans l'entreprise. Et grosso modo, je leur dis, bah, il n'y a pas de solution, quoi. Vu votre génération, il n'y a rien qui vous retiendra. Et en cours de discussion, au moment, je leur dis, mais elles étaient en alternance toutes les deux. Vous pensez rester dans l'entreprise où vous êtes? Bah non. Et dans l'entreprise dans laquelle vous allez aller après, ah ben on va rester 2-3 ans. Et voilà, et vous êtes en train de faire un boulot pour expliquer, soi-disant, qu'on peut conserver des jeunes. Et en fait, bon, je ne t'aurais pas dit comme ça parce qu'on n'a pas été jusque-là, mais pour moi, il y avait un truc qui était très amusant. C'est que c'était des profs derrière qui avaient incité à dire si, il faut faire le truc pour dire comment on garde les jeunes, mais on ne peut pas les garder. Parce que quand.
Est-ce qu'on peut pas, ou est-ce que finalement, regarde, quand tu prends sur un autre domaine, mais dont il y a des passerelles, tu prends sur les marques sont capables de fidéliser dans le temps. À Apple, finalement, il y a les Apple fans, donc ça veut dire qu'ils se réinventent, ils écoutent les gens et ils retravaillent ensemble de façon toujours collée au marché. Et
Moi,
si
je ne suis pas
l'entreprise fait
d'accord.
pareil?
Quand tu vois le nombre de sociétés actuellement, notamment dans la mode, qui sont en train de se casser la figure, tu cherches où est-ce qu'ils sont leurs fans.
Mais quand tu vois les grandes marques, celles qui perdurent, Dior, Saint-Laurent, etc., bah, ils perdurent, ça
C'est pas
marche.
la même chose. T'es plus dans la même catégorie, t'es dans le luxe.
Oui, bien sûr.
Dans les marques grand public, tout se casse la gueule
Oui,
quasiment.
mais ce n'est pas le même positionnement, mais le luxe, il y en a qui disparaissent aussi, hein.
Beaucoup moins, en fait.
Donc ça veut dire comment est-ce qu'ils font? Ça veut dire qu'ils se réinventent. Quand on prend par exemple LVMH, la façon dont ils sont mondialisés, certains disent wokisés, hein, justement parce que le marché américain est très important et donc dans ces cas-là, ils reprennent les codes. Dans ces cas-là, on s'aperçoit qu'ils collent au marché, c'est-à-dire qu'ils écoutent. Et si on transpose ça à l'entreprise, un jeune, c'est quelqu'un qui a des envies. À la limite, je l'écoute parce que pour savoir ce qu'il a envie, je lui propose peut-être pas forcément ce qu'il a envie, quitte à le surprendre, mais en tout cas, j'essaye de le fidéliser dans le temps. Les gens de marketing ou de design disent qu'ils y arrivent très bien, on pourrait y arriver avec des collaborateurs, au
Moi,
principe.
je ne crois pas qu'il y arrive très bien. C'est tout un problème de marketing proprement dit. C'est-à-dire que le marketing, c'est tu travailles pour la masse en disant j'aurai le plus grand nombre de personnes que je vais rechercher avec des groupes, avec des segmentations, etc. Le truc qu'il y a, c'est que les jeunes n'achètent plus comme ils achetaient dans le passé. Tu as l'exemple là qui, en Australie, m'a fait des soldes en ligne. En me disant, c'est pas grave, je pourrais les récupérer à mon retour d'Australie. J'irai dans le magasin. Donc, j'ai commandé 10 pantalons et j'ai testé les 10 pantalons.
En prendre
Et en prendre au final aucun.
pas. Non,
Oui, non, mais voilà.
t'as raison.
C'est la règle du jeu. Mais c'est-à-dire que tu as le comportement d'achat qui est complètement modifié. Alors, moi, on a beau me baratiner comme on veut sur certains trucs, avoir des clients fidèles, avoir des ceci, des cela. Ça dure bien un temps. Le seul qui s'en sort à peu près, c'est Kiabi, je trouve. Kiabi s'en sort à peu
Et
près,
sur le réseau et
mais
tout,
ils n'arrêtent pas de changer
ils sont
aussi.
balèzes.
Et puis, ils n'arrêtent pas de changer.
Hein. Bien sûr, exactement.
Mais là, ils innovent complètement.
Mais si on écoute Ise, par exemple, qui nous dit, par exemple, sauver la planète, c'est une préoccupation des jeunes. Donc on se dit, pourquoi pas? Donc l'entreprise se dit, ça peut être aussi la place de la femme, enfin, il y a plein de sujets sociétaux, on en prend un ou deux, et puis on donne à la personne la possibilité d'être porteuse de ce projet jusqu'à ce qu'elle ait plus envie, puis on lui trouve un autre projet. Et
Mais
donc
après,
finalement.
ça se renouvelle aussi parce que
Absolument.
si tu fais tout le temps la même chose, même dans la même entreprise, tu auras des. Comment dire, ça va se regrouper, tu vois. Alors que si tu changes d'entreprise, bah, ça sera plus forcément les mêmes objectifs. Tu vas devoir trouver des autres solutions et tout. Donc, c'est vrai que tu vas devoir plus te creuser la tête, entre guillemets. Donc, c'est ça aussi qui est stimulant, quoi.
Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que comme les postes sont de moins en moins standardisés, ça veut dire qu'on peut recomposer les activités en faisant évoluer les gens et même mieux que les gens. C'était un peu le slogan de Google à l'époque, il y a de ça une vingtaine d'années, quand il disait, ce qui était faux, hein, mais il le disait quand même, c'est-à-dire je propose à mes cadres tout ce qu'ils veulent avant qu'ils en aient envie.
Ouais.
Et donc la prédictibilité. Et donc ça veut dire qu'il y a un rapport d'échange qui permet de se dire, bah, finalement, on peut refaire société, mais différemment. Non?
Ouais, mais si je repense à Apple ou des choses comme ça, le nombre de personnes qui voulaient aller travailler chez Apple et combien en sont sortis aussi. Parce que le système, au final, ne correspondait pas du tout à ce qu'ils voulaient. Chez Google, c'est la même chose. Et moi, je me rappelle, alors, ça date maintenant, mais c'est des débuts des années 2000, j'ai des étudiants qui ont refusé d'aller faire leur stage chez Microsoft.
Oui, absolument.
Parce que idéologiquement, ils n'étaient pas d'accord avec Microsoft. Et bien, tu prends cette situation-là, le fait de dire non, non, je refuse parce que c'est Microsoft, etc., tu ne l'aurais pas eu dans les générations précédentes.
Oui, complètement, absolument.
Et donc, tu vois, tu as des choses comme ça qui viennent s'agréger les unes aux autres et qui sont compliquées à 8 à l'idée.
Hier, bah, par exemple, on a vu un reportage avec Shein et j'ai dit, quand j'ai vu ça, il y avait la porte-parole de Shein France qui parlait. J'ai dit, mais moi, jamais je pourrais travailler pour eux. Genre, même si tu me proposes un salaire mirobolant, un cadre mirobolant,
Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, je dis oui, parce que moi, j'ai mon idée, mais peut-être que ce n'est pas la tienne. Donc, qu'est-ce qui te fait... Voilà.
c'est haut. Enfin, il y a des conditions derrière de travail qui sont horribles pour plein de personnes. C'est absolument pas écologique. Leur tissu, il y a des normes qui ne sont pas respectées, enfin, probablement pas respectées. Tu as tout un environnement écologique et envers les droits de l'être humain qui sont. Enfin, pour moi, c'est pas honnête, quoi. Enfin, c'est dégueulasse, quoi, ce qu'ils font. Donc, tu peux pas accepter ça. Donc, ça veut dire que là, leur but, c'est de vendre encore plus. Donc, je vais les aider pour vendre encore plus de la merde. Ben non, clairement, c'est hors de question. Moi, je peux pas, moi, je veux pas. Ça serait une marque de vêtements qui est fait en France ou en Europe dans des bonnes conditions, dans des usines où les conditions des salariés sont respectées, ils sont payés de manière logique, ils ont des horaires, ils ont ouais, des bonnes conditions de travail, des tissus qui sont faits de manière cohérente, sans produits chimiques, etc. Oui, ça me dérangerait carrément pas, ça me ferait plaisir.
Bien sûr.
Mais il y a des trucs
Et
que.
pourtant, socialement, ils répondent aussi à un besoin des gens qui n'ont pas de moyens, qui finalement se disent, ben, je n'ai pas beaucoup d'éléments, ben, je préfère donner un peu d'argent, parce que c'est beaucoup moins cher que dans la distribution, parce que les transports sont souvent offerts, même sur des 10 euros, 15 euros, donc ce qui est particulier. Et donc, il y a des gens qui disent, ben, moi, je vais, ou t'émus
Oui.
aussi dessus sur le même modèle, ils disent ben, j'y vais parce que c'est beaucoup moins cher, que je n'ai pas les moyens, tout simplement. Donc il y a des gens que ça peut être des produits faits pour eux.
Là, je pense qu'on retombe sur un autre problème, c'est que tu reparles, toi, enfin, dans ton discours, c'est le discours de la société de consommation. Je dois consommer. Mais je pense qu'on en est détaché, on n'est plus à ce niveau-là. Et même chose, il y a plein de comportements. Là, déjà,
Quand tu achètes des vêtements, tu les consommes quand même. Hein. Il n'y a personne qui se promène complètement naturiste. Hein. On peut le regretter. Hein.
t'as la quantité,
T'as la manière.
t'as la quantité, combien de choses que tu achètes ou ce que tu fais avec ton argent.
Exactement.
Ça, c'est encore
Oui.
un débat. Mais je prends un exemple tout bête. L'an dernier, pendant les grandes vacances, il y a eu plusieurs reportages sur France 2, pendant le journal télévisé, qui montraient comment faire pour ne pas payer cher un trajet pour aller en vacances. C'était très marrant parce qu'en fait, c'était très teinté écolo, tout ce qu'on veut. Et donc, il fallait prendre le train pour aller voyager de tous les côtés à travers l'Europe entière. Et trois fois sur cinq, on va dire, tu payais plus cher en train, déplacement, que si tu prenais un avion. Mais
D'accord.
économiquement, on ne peut pas. Là, avec Ise et Clara, nous allons en Lituanie. Et nous avons eu un gros débat. Comment faisons-nous le voyage entre l'île et la Lituanie?
Et
Donc,
vous n'avez pas abordé le sujet du covoiturage, ce qui aurait été aussi une possibilité alternative.
ça aurait été trop long, si on aurait dit non. Déjà, le
Absolument.
bus, c'était un peu trop long.
Oui, c'est exactement.
Mais donc, il y a eu des gros débats. Donc, moi, tout de suite, j'ai dit, bah, attends, vu le truc, vu le coût que ça coûte en avion, vu le bordel que c'est avec les trains, tout ce qu'on veut, on ne s'embête pas, on prend l'avion. Donc, moi, je suis le seul à voyager en avion à
Très
l'aller
bien.
et au retour.
Mmh,
Une négociation entre les deux, parce que tu en as une qui n'est pas présente, qui, elle, il est hors de question qu'elle prenne l'avion, parce que c'est scandaleux, son empreinte écologique va être foutue pendant 15 ans. Et donc, au final, tu as les deux filles qui font le voyage aller en avion, mais qui reviennent en train. Mais après, quand on s'est aperçu des prix, etc., C'est complètement discutable, si tu veux,
On
mais.
paye 4 fois plus cher pour le train. Enfin, et encore, il n'y a pas encore la nourriture qu'on doit se payer sur
Ah oui,
place.
c'est plus long.
Bah ouais, mais 2 jours
Une nuit
pour
d'hôtel, etc.
rentrer, oui, mais ça c'est pris, c'est
Mais tu
lui, on
vois,
enlève 2 à 3 fois plus
je
cher.
trouve que c'est
Bien sûr.
une influence sociétale. Il faut être écolo. Nous, on a déjà eu des gros débats sur ça. Parce que
C'est pour ça que dans la consommation doit faire sens. C'est ça que vous dites.
oui.
mais après, par exemple, pour revenir sur l'histoire des vêtements, tu as aussi de plus en plus de gens qui expliquent en disant bah, on peut acheter, même si on a, parce que l'argument du petit budget que tu disais, par exemple, avec Shein ou Temu, les gens peuvent s'acheter s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, enfin, pas un gros budget pour ces choses-là. Tu as de plus en plus des gens qui disent, mais en réalité, en seconde main, on peut trouver des t-shirts ou des vêtements vraiment pas chers et de bonne qualité parce que ça ne sera pas du polyester, du nylon, je sais pas quoi, comme matière synthétique. Mais si tu peux trouver, enfin, là, dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui montrait des manteaux 100% laine qu'elle avait acheté en seconde main pour moins de 10 euros. Donc, un manteau 100% laine à moins de 10 euros, bah, je suis désolée, on ne le trouvera jamais. Et tu ne pourras pas avoir aussi chaud avec un truc fait à l'autre bout du monde avec
Et
des.
ce sont des circuits courts parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont de la région qui les proposent. Donc ça, c'est. Et quand on ramène ça en formation, est-ce que ça voudrait dire il faut redonner du sens à la formation?
Ah bah
Non, là,
complètement,
c'est
c'est-à-dire que
clairement.
les formations pour des formations.
Sachant qu'il y a la moitié des formations qui sont obligatoires.
Oui, mais faut que, par exemple, moi je vais prendre l'exemple, je pense que ça, tu sais, dans le domaine médical.
Oui,
Oui.
je me doute.
J'ai une amie dans le qui est kiné. Ils ont une formation par an, je crois, qui est obligatoire, sinon ils doivent payer une amende. Dans le catalogue, elle demande à l'autorité quoi qui fait ça, qui gère le truc, elle demande, elle dit, bah voilà, moi je voudrais un truc genre prénatal, mais vachement pointu, quoi, mais hyper intéressant. La nana lui dit, bah écoute, on n'a pas ça, on a pour les adultes. Elle dit, bah non, moi ça ne m'intéresse pas, je veux dans le prénatal. Et elle dit, bon, bah tant pis, je m'en fiche, je ne fais pas de formation. La nana lui dit, bah écoutez, vous savez que si vous faites contrôler, je sais pas, c'est 400 ou 600 euros d'amende que vous devrez payer. Elle dit, bah tant pis, je préfère prendre le risque de devoir payer que de perdre une semaine de formation qui va me servir à rien parce que je ne vais jamais m'en servir pour être dans les règles de l'art. C'est tout. Elle a dit, bah, je ne fais pas ma formation et puis enfin, de la merde. On verra si je suis contrôlée ou si je ne suis pas contrôlée. Si elle n'est pas contrôlée, bah, tant mieux pour elle, elle ne devra pas le payer, l'amende. Mais si elle est contrôlée, bah, elle payera l'amende et puis c'est tout. Mais elle sera droite dans ses bottes, quoi.
Donc, mais ça veut dire que, alors là, elle est indépendante, donc elle a la possibilité de choisir. Et comme tu disais très justement, il y a quand même le coût, parce que 400 euros, ça représente une petite somme. Mais ça veut dire que quand on est en entreprise, c'est une obligation d'être formé. Donc, quand le chef dit, bah, tu vas en formation, même si au fond de mon cœur, je n'ai pas trop envie, bah, c'est un refus d'autorité, c'est un motif de licenciement.
Oui, mais enfin, ça a toujours existé.
Oui, bien
Mais
sûr.
moi, quand j'étais formateur dans le passé, les gens étaient confrontés exactement au même problème. Ils venaient, ils arrivaient, ils disaient, moi, j'en ai rien à faire de la formation. Hein. Je suis venu parce que j'étais obligé. Alors, on peut dire ce que vous voulez, c'est pas grave. Hein. Mais je serai là, je participe. Hein. Puis tu les voyais, ils faisaient plein d'autres trucs à côté. Donc, ils ne suivaient pas la formation, mais tu le savais, de toute façon. Donc, il n'y a rien de changé sous le truc,
Mais
quoi.
comment est-ce qu'on peut faire pour que justement, sur des formations qui sont parfois obligatoires, parce que la stratégie bouge d'un peu dans tous les sens, des fois parce que la formation est modeste, comment est-ce qu'on peut faire pour réenchanter les formations?
Bah, faut déjà que ce soit une formation qu'on a envie de faire.
Ouais,
Enfin, déjà,
comment est-ce qu'on donne l'envie aux gens
bah, que
en leur posant la
ça
question?
nous intéresse. Ouais, non, mais ça, c'est. Tu préférerais plutôt faire une formation, je sais pas, sur avec enfin, par rapport à cette plaquette publicitaire-là, ou celle-ci, et avoir le choix, et avoir. Si la personne dit, bah, j'en ai aucune des trois qui m'intéresse, bah, essayer de comprendre pourquoi et essayer de trouver qu'est-ce qui l'intéresserait. Parce que faire une formation, enfin, ça va avoir un coût pour l'entreprise.
C'est imposer une
Ouais,
formation, en
mais
fait, c'est ça le problème.
c'est imposer un truc. Bah, clairement, si ça te gonfle, bah, ça va te gonfler. Donc, tu
Mais
vas rien.
si on prend un exemple concret, puisqu'on en parlait tout à l'heure de ChatGPT, dans ces cas-là, les entreprises se disent, c'est indispensable, dans la création par exemple, donc c'est indispensable, l'entreprise dit, on va tous s'y mettre, voilà, et donc au bout d'un moment, bah, il faut le faire rapidement parce que sinon on est vite dépassé par les autres, donc tout le monde va s'y mettre, quelle que soit la façon de faire, avec même des professionnels de grande qualité, enfin voilà. Les gens disent non, moi j'ai pas envie, moi je fais comme d'hab.
Mais par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui te dit aussi, bah moi je m'y suis intéressée par moi-même, donc qu'est-ce que la formation va m'apporter? Parce que
Oui,
moi, je
c'est
m'en
ce que
suis
je
servi.
pensais, moi.
Moi, c'est ce que je pensais. Par exemple, moi, tu me proposes une formation. Oui, si dans la plaquette, il y a des trucs auxquels je n'ai pas forcément pensé ou des axes qui pourraient m'intéresser, oui, pourquoi pas. Mais sinon, si tu me proposes une formation pour ça, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Parce que je m'en sers déjà au quotidien et j'ai déjà mille et une manières de m'en servir. Donc, enfin. Tu vois, savoir poser ta question et tout, bah oui. Mais enfin, moi, au quotidien, je me suis rendu compte de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Donc, pourquoi est-ce que je. Ouais, par rapport à moi, attention, je parle par rapport à mon
Bien sûr.
cas. Qu'est-ce qu'une formation en plus va m'apporter? Donc, c'est vraiment, limite, tu me proposes une formation par rapport à un autre outil d'IA, limite, je vais dire, ah bah ouais, pourquoi pas, comme ça, je verrai les différences.
Ou le fait, par exemple, de reprendre si toi, tu as pris de l'avance. Parce que de façon personnelle, tu t'es impliqué dans ChatGPT, ça peut être l'occasion de l'expliquer aux autres, de pédagogie, et finalement de te confronter, d'aller travailler avec eux, avoir des problèmes qu'eux rencontrent, que tu peux aider. Et donc, c'est une façon un peu différente d'aborder les formations.
Oui, carrément. Ça, par exemple, si tu me demandais en disant, bah voilà, enfin, on fait un petit groupe avec toute l'équipe et explique comment tu t'en sers et comment ça, on pourrait l'intégrer à l'entreprise au quotidien. C'est, enfin, carrément un truc qui me plairait, tu vois. Mais il faut que tu, enfin, puis en plus, comme, enfin, ça montre aussi que tu t'intéresses à ce que font les salariés de l'entreprise.
Exactement.
Et après, tu vois, par exemple, si dans la tu te rends compte durant cette session-là qu'il manque un petit truc à droite ou un petit truc à gauche, bah, derrière, on peut dire, bon, bah, voilà, on va faire une formation pour affiner ces points-là par rapport à ChatGPT, par exemple. Ou ça peut être, bah, voilà, tu nous as parlé vachement de ChatGPT, mais en fait, il y a plein de trias sur plein de choses. Par exemple, il y en a une qui te permet de faire des PowerPoint.
Plusieurs.
Ouais, non, mais enfin, il y en a une là, j'ai testé dernièrement. Tu lui donnes un sujet et clairement le truc c'est bluffant ce qui va te sortir. Mais ça peut être sur. Enfin, c'est hyper vaste en fait comme sujet. Donc faut vraiment trouver le truc qui passionne le salarié pour qu'il soit attentif à la formation.
Moi, je crois qu'il y a aussi un autre problème au niveau des formations en général. Enfin, il y en a deux, en fait. Le premier, c'est, j'ai déjà rencontré le cas, où on demande des formations sur, je me rappelle une fois, c'était sur les documents en interne, comment venir les modifier, etc., pour avoir une intelligence collective et tout ce qu'on veut. Donc, c'est... Et on retrouve le même problème quelque part quand on parle des réseaux sociaux, du Web 2 de manière générale. Les entreprises n'ont pas encore pigé que c'était une façon de penser qu'on avait au départ et que si on n'a pas cette façon de penser, on peut donner tous les cours qu'on veut, ça ne fonctionnera jamais. Et je reprends le truc sur le travail qui était mis en commun, etc. C'est un ingénieur de l'entreprise qui avait rêvé ça. Parce qu'il avait lu des informations sur ce système-là, et donc c'était vachement bien. Seulement, son entreprise, déjà, les personnes à qui il s'adressait n'avaient pas un niveau assez élevé pour pouvoir intervenir dessus. C'était d'énormes dangers parce qu'on laissait tout ouvert à tout le monde.
Bien sûr.
Il n'avait rien de réfléchi. Mais comme il avait lu que ça se faisait tout seul, ben voilà, on va l'appliquer, on va faire une formation à tout le monde, on va les mettre en formation. On a fait comme on a fait des formations tous les deux sur des histoires de réseaux sociaux, etc. On sait très bien que si les gens n'ont pas l'esprit pour, on peut leur expliquer tout ce qu'on veut. Je me rappelle d'une structure où on leur demandait, mais c'est quoi votre inline, c'est quoi votre ligne de force? Puis on nous sortait un truc complètement pipeau et ils n'arrivaient pas à en décoller de ça. Et donner la parole aux autres, c'était compliqué. Donc, je crois que ça, c'est le premier problème qu'on a pour beaucoup.
Et tu dirais pas que de plus en plus des entreprises, souvent ils abordent ça par le biais de l'engagement. C'est-à-dire qu'ils veulent que, surtout quand c'est sur du numérique, ils veulent que les gens s'engagent, donnent du contenu, au moins un minimum like. Et que de plus en plus on entend cette petite voix dans les pédagogies pour dire qu'il faut favoriser l'engagement, plus qu'avant.
Bah, même en marketing, mais
Oui, bien sûr, marketing.
Je repense à une société qui filait des téléphones portables à ses employés pour que les employés puissent diffuser régulièrement au sein des différents, c'était des magasins, au sein des différents magasins. Mais c'était une cata, parce qu'ils étaient, on leur
Manque de
donnait ça, mais
formation.
on leur expliquait.
Bien sûr.
Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'en ai discuté avec les directeurs marketing, mais bon, ils ne demandaient pas, c'était la bonne solution, c'est ce qu'il fallait faire. Oui, bah non, je veux dire.
Est-ce qu'en fait, finalement, c'est pas de mettre en place une écoute de façon à se dire, j'ai une idée, elle vaut ce qu'elle vaut, je la tente, je la teste, quitte à peut-être la changer, rebondir, voir ce qu'on peut en faire, voir comment est-ce qu'elle est perçue, finalement faire des focus group, des choses où on libère la parole, de façon à ce que l'apprenante soit plus, comme on dit étymologiquement parlant, celui qui ne parle pas, mais au contraire celui qui s'exprime beaucoup.
Je sais pas si c'est le rôle de l'apprenant, moi je te prendrai ailleurs. Je pense que ceux qui demandent le plus de formation, mais qui soient complètement en dehors de leur projet, mais de formation de base, c'est justement les dirigeants. Moi, il y a certaines formations, je prends une formation LinkedIn. LinkedIn, je demandais systématiquement ce qu'il y ait un dirigeant d'entreprise qui soit là.
Très bien.
Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, tu avais des gens du RH. Et bah, il y avait plein de points de vue et d'apports et de conjugaisons au niveau de l'architecturage de LinkedIn qui devaient être faits avec le marketing, avec le SAV, avec. Donc, c'était, si tu n'avais pas un patron qui était là pour dire, ah bah ouais, tiens, ça c'est pas con, on peut le mettre aussi,
Bien
et
sûr.
bah, ça ne marchait pas. Le reste du temps, ça ne marchait pas. Donc, tu vois, je pense que c'est plus, ce n'est pas tellement l'apprenant, c'est plus la structure qui est au-dessus de lui, tu vois.
Bien
Avoir
sûr.
d'autres éléments. L'autre partie aussi, que je mets en dehors de l'apprenant également, c'est j'avais écrit un article, je ne sais plus quand, allez, vu le nez, on va dire 2005, qui était que je
Donc au tout
disais.
début des réseaux sociaux.
Oui, mais ce n'était même pas sur les réseaux sociaux, c'était sur la formation, sur l'apprentissage. Et dans lequel je disais, mais l'apprentissage, en fait, les formateurs, ceux d'aujourd'hui, vont plus exister demain. Parce que la formation n'a plus rien à voir. Et moi, je prenais l'exemple de Photoshop, que tout le monde bidouillait dans son coin sur Photoshop. Et en plus de ça, tu avais le. Bon, j'ai perdu le nom, en fait. Qu'on apprend. J'ai un trou, c'est pas grave. En fait, les gens. Pouvez venir en formation en ayant ce que tu expliquais un petit peu, en disant avec Iseu, ben voilà, si on te donne un groupe et que chacun vient parler de son expérience, etc. Ben oui, mais c'est le rôle du formateur dans ces cas-là de tout recanaliser. Dans Photoshop, tu l'as. Dans Photoshop, les gens venaient. Moi, ce qui m'amusait beaucoup dans Photoshop, c'était les journées de formation en expertise de Photoshop. Tu avais des gens qui avaient vu une initiation, alors très variable selon l'initiation qu'ils avaient vue, et ils arrivaient, il fallait un perfectionnement, voilà, chercher le nom, un perfectionnement. Et donc, les gens arrivaient, puis on avait des super balèzes, puis on avait qui étaient au ras des pâquerettes, quoi. Et donc, toi, comme formateur, tu es obligé de naviguer entre tout ça, mais d'être capable de répondre aux plus performants en même temps, tout en essayant de l'expliquer au plus faible. Et c'est là que le rôle du formateur change du tout au tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre, moi je connaissais beaucoup de formateurs Photoshop qui connaissaient Photoshop, ouais, ils connaissaient Photoshop, quoi. Ils connaissaient les grands axes, mais ça n'allait pas plus loin. Et après, même chose, hein, moi je sais que dans une
Mais
université.
justement, est-ce que le rôle du formateur, ça devient pas d'être, au lieu d'être formateur leader, en disant, faites comme moi, suivez-moi, ils sont formateurs coach, c'est-à-dire, ils créent un territoire apprenant, c'est la salle, c'est peu importe, ça peut être à distance, ils créent un style en disant, qu'est-ce qu'on fait dans ce groupe-là? Il faut bien que bah, chacun apporte sa contribution, mais il faut bien que quelqu'un le dise, pose les règles, et finalement, il anime par le bas. En s'occupant des plus faibles, des plus forts, enfin en gérant, mais ça veut dire que finalement, et c'est lui qui est le gardien, peut-être même en faisant rien, le groupe se fédère lui-même, mais finalement, il est en métavision, comme on dit, en supervision, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un problème, il est là pour aider. Est-ce que ça ne devient pas la nouvelle forme du formateur?
Et c'est tout le problème qu'ont les enseignants
Ah,
dans le niveau
oui.
scolaire.
Bah oui.
C'est-à-dire que j'étais plusieurs années à Ludovia, etc. C'était l'une des grosses problématiques. C'est nous ne voulons pas devenir coach. Mais par la force des choses, ils deviennent coach.
Par exemple, je me rappelle quand j'étais première, j'avais cours d'éco le samedi matin. Donc c'était 2 heures en plus. Donc c'est vraiment le jour où tout le monde est. Voilà, c'est pas où on est plus motivé, quoi, mais bon. Et un jour, la prof, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait un peu naturellement, où en fait, c'est devenu un cours inversé où c'était nous qui posions les questions et elle qui nous répondait. Et en fait, tout le monde a dit, mais genre, c'était le meilleur cours qu'on ait eu parce que tout le monde. En plus, tu es obligé de suivre dans ce cas-là parce que tu
Ouais.
peux pas te décrocher parce que sinon, c'est mort. La prof, elle a adoré parce que ben, on était hyper motivés, puis en fait, ça venait s'enrichir avec les idées des uns et des autres. Et c'est vrai que bah, enfin, moi, j'en ai un hyper bon souvenir de ce cours-là. Et tout le monde, quand on en avait reparlé après, on avait tous adoré en se disant bah, on a largement plus appris de ce cours-là dans ces 2 heures-là qui, normalement, sont 2 heures de la semaine où on ne va pas retenir facilement. Et là, tout le monde c'était vachement enrichissant pour tout le monde, quoi, ce cours.
Mais c'est la même chose. Iso et Clara viennent de finir une formation.
Secourisme.
Je ne voulais pas dire le nom, mais
Ah.
bon, Secourisme. Et alors, il y a des choses qui les ont choquées, mais qui m'ont choqué aussi quand elles l'ont raconté. Et c'est là que je dis que le rôle des enseignants doit changer. Ça marchait il y a 20 ans, ce qui s'est passé, mais ça ne marche plus maintenant, selon moi. Par exemple, l'un des formateurs leur a dit, ah ben, les avalanches, on ne va pas s'en occuper, on ne peut pas en avoir dans le nord.
Non, c'est pour le truc du dessus, mais oui, mais
Oui,
grosso
mais
modo,
bon,
grosso modo, on s'en
ça veut
fiche. On s'en fiche de l'avalanche parce qu'on n'est pas confronté à ça. Et moi, limite, je me suis dit, bah, moi, limite, ça
pas.
m'intéresse vachement, quoi. Enfin, parce que au ski, ça peut arriver, et puis voilà.
Et tu avais un
Mais
deuxième truc aussi,
par exemple.
qu'il n'a pas fait les noyés qu'il faisait avec la plongée sous-marine. Parce que
Si,
lui.
il nous l'a fait, mais
Oui,
en.
mais il l'a fait rapidement parce qu'il n'avait pas ses diplômes de plongée sous-marine,
Enfin,
etc. Et
non,
qu'il a dit comme
attends,
ça,
attends, attends, attends.
tu t'adresses aux chefs de plongée, ils connaissent tout ça par cœur. Mais oui, mais non, c'est pas ça, c'est le formateur, à mon avis, et lui aussi doit
Mais
donner la.
à l'inverse, est-ce qu'il n'existe pas des formateurs inspirants aujourd'hui? Des gens où moi je viens tranquillement, bon, je fais mon histoire, et puis je vois quelqu'un qui s'excite tout seul, qui s'allume en termes de motivation, et finalement je me dis, mais il y a peut-être, c'est peut-être ça ma voie. Est-ce
Mais
que ça n'existe plus?
honnêtement, moi j'ai cherché à apprendre la langue des signes. On m'a mis tous les bâtons dans les roues pour apprendre. J'ai trouvé un organisme qui aurait pu me convenir, etc. Bah, clairement, je ne l'ai pas fait parce que enfin, l'organisme m'a mis tous les bâtons, le formateur aussi, sans répondre à mes questions de base que j'avais. Et donc, par exemple, un truc tout bête, mais. Ils m'ont dit, ben non, il faut vous payer l'année complète pour avoir accès au premier cours. Moi, j'ai demandé, est-ce que c'est possible que ce soit seulement un semestre? Non, non, vous êtes obligé de vous engager sur
C'était
l'année
marqué un
complète.
semestre sur leur
Et
site.
alors que c'était noté sur leur site que tu pouvais prendre un semestre. Tu vois, enfin, tu avais plein de choses comme ça. Moi, en plus, ils demandaient en disant, bah, je suis dyslexique, j'ai peur de ne pas savoir au niveau de tourner à droite et tout. Oh, vous inquiétez pas, la formatrice, elle a dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais ouais, enfin, c'est gentil, je veux bien, mais voilà. Après, par exemple, je fais un cours de céramique et enfin, c'est vendu comme un cours de céramique. Donc maintenant, j'ai compris. J'espère qu'elle n'écoute pas.
Elle ne va pas écouter. Elle ne va pas
Voilà, je
écouter.
pense pas que c'est le public. Dans le cours, moi, je trouve que bah, ça manque de passion. Enfin, elle, enfin, la prof manque vachement
D'investissement.
d'investissement personnel en fait, parce que moi je lui trouve parfois des trucs que je vois sur les réseaux sociaux. Ah ouais, je l'ai vu, j'ai pas testé. Bah ouais, mais attends, enfin, moi clairement, c'est le premier truc que je vais voir. Je vais dire, vas-y, à 3000%, je vais tester, ça m'intrigue. Ou alors, je vais chercher sur internet des manières de faire, etc. Ce que d'autres personnes du coup ont fait.
Génération Y.
Ouais, en plus. Ce que d'autres personnes du coup ont fait, parce qu'il y a une fille qui est de la génération de papa, qui elle a été voir des tutos YouTube et tout pour se renseigner comment
Bien
on faisait le.
sûr.
T'avais vu, alors que la prof, pas du tout.
C'est génération Y. Je trouve que c'est typique
C'est
là-bas.
génération Y et t'as plein de trucs qui fait que ben elle a appris ce qu'elle a appris. Elle va pas s'intéresser à chercher plus loin que le bout de son nez. On lui a appris ça, bah c'est ça. Alors que t'as plein de trucs que tu peux faire de plein de manières différentes et t'as enfin cette petite touche de enfin que ça pétille dans ses yeux et tout, bah. Clairement, elle l'a pas. Enfin, elle est là, elle fait son cours. Ouais, je pense qu'elle est contente de faire son cours, c'était ce qu'elle voulait, mais derrière, t'as pas l'envie de transmettre, quoi. Enfin, et moi, ce que je dis maintenant, je dis, bah, enfin, je suis en cours, enfin, je vais faire de la céramique, mais clairement, j'y vais pas pour le cours. Je sais que je peux pratiquer, que j'ai accès au four. Clairement, c'est enfin, ce que je dis dans ma vie de tous les jours. Et je sais que si je veux me former, je me forme par moi-même, j'ai regardé dans des livres, sur internet, etc., pour avoir les ressources nécessaires pour progresser, parce que même pour progresser.
C'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, bien sûr, il y a une mécanique de plus en plus d'animation, au sens premier du terme, allumer le feu, quoi, grosso modo. Et donc, ça veut dire que simplement, on n'a plus envie d'avoir des bureaucrates. La question que je me posais avec le fait de dire qu'il y a des générations, est-ce qu'on peut mélanger les générations? C'est-à-dire, est-ce qu'un vieux ou un senior, pour être moins désobligeant, mais j'aime bien ce côté désobligeant. Est-ce que finalement, si on lui dit, ben, ça veut dire que tu viens, t'exprimes tes problèmes, lui peut se dire, moi, je veux un peu à l'ancienne, quoi, genre.
Mais limite, il aura beaucoup plus de choses à raconter, beaucoup plus d'expériences, et ça sera fait de manière naturelle, quoi, et ça sera hyper enrichissant. Je repense quand on a été visiter pas le musée, là où ils
La
fabriquent la
chapelle.
bière.
Ah oui, l'abbaye.
L'abbaye, voilà.
C'était amusant en même temps.
Ouais, on a été visiter une abbaye, et c'était une personne. C'était une abbaye enfin, l'abbaye des femmes en Belgique, et la personne avait, je sais pas, 50, 60 ans, non?
60 ans plutôt.
Ouais. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que. Enfin, elle me parle de 10 millions de choses et tout, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Enfin, c'est largement trop pointu par rapport à mes connaissances à moi. Et en fait, elle a su me passionner pendant la visite de l'abbaye a duré, ouais, 2 heures, je crois. C'était énorme, et c'était tellement riche et dense en informations, c'était hyper intéressant. Et en plus, on s'était gouré d'habits. Normalement, on devait aller voir l'habit des hommes où
Elle le
ça
savait
convenait aux
en
femmes.
plus.
Et elle le savait. Mais clairement, je regrette pas du tout cette erreur-là de base. Et ça a été hyper enrichissant. J'ai appris plein de choses que je ne pensais pas apprendre ce jour-là en allant visiter l'abbaye. Et c'est vrai que bah, enfin, c'est super bien passé. Et enfin, le contact et tout, elle a su me passionner par son truc. Mais clairement, la nana, elle nous a dit, oui, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai été vérifiée. Ah oui, donc sur Wikipédia, en fait, il dit ça, mais j'ai été vérifiée. En fait, ils se sont trompés parce que j'étais voir dans l'abbaye là-bas, tralala et tout. La personne était vraiment passionnée par son truc, quoi. Enfin, c'était pas, j'étais lire le livre de ce qu'il faut dire dans l'abbaye. C'est non, elle a été vérifiée les infos, elle a été recherchée les infos complémentaires. Si on pose des questions, elle avait les réponses. Et puis, enfin, c'était vraiment hyper enrichissant, quoi, comme expérience, quoi. C'est vrai que, donc, je pense qu'il y a pas, enfin, il y a pas de souci du moment que la personne, elle sait de quoi elle parle, qu'elle va pas déjà inventer, et que ouais, si elle est réellement passionnée par son truc et tout, bah clairement oui, vas-y, parle.
Ouais, je parlais. En fait, Iso est en train de décrire un truc, mais qu'on dit depuis longtemps sur la génération Z. Parce qu'en fait, tu as le travail en commun avec les différentes générations. Le gros, gros problème, c'est la génération Y. La génération Z, avec les X ou les baby boomers, donc les plus âgés, se passe toujours très, très bien. Parce que justement, comme elle l'a exprimé, la génération Z est en demande d'explications, veut avoir des trucs, mais avec des gens d'expérience. Il faut que les gens savent réellement de quoi ils parlent, etc. Et c'est ce qu'elle était en train de nous raconter, en fait.
Méchant.
Situation typique. Et les vieux, bah, ils sont contents d'aider une petite jeune.
Ouais.
Donc, t'as le phénomène-là qui marche très, très
Méchant.
bien. On dit même que c'est poussé à l'extrême parce que les vieux laissent passer des trucs parce que bah, ouais, c'est pas grave, c'est une petite jeune, on lui pardonne, elle ne le fait pas exprès. Par contre, le conflit se trouve entre la génération Y et la génération Z. Là, tu auras des gros problèmes.
Il y a de la concurrence.
N'y a pas seulement de la concurrence, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré la génération Y comme la génération perdue. Pourquoi? Parce qu'elle est coincée entre justement les baby boomers, les X qui sont au pouvoir, et la génération Z qui est derrière eux. La génération Z, généralement, on la définit comme un rouleau compresseur. Dès que ça passe, ça avance, et tout le monde fonctionne comme eux. Et donc, moi, un jour, on avait fait une conférence comme ça, enfin une conférence, une rencontre entre la génération Z et les générations Z,
Ouais, les versions
Z et
Y.
Y, pardon. Et le discours qui ressortait, c'est que les Y se disaient, mais en fait, vous en apercevez pas, mais on vous prépare le terrain. Et les Z se moquaient d'eux, quoi, en disant, mais attendez, on n'a pas besoin de vous pour préparer le terrain. Nous, on fonctionne comme on veut fonctionner. Et donc, les Z sont, ils savent pas comment se positionner par rapport à eux. Et c'est là qu'il y a un gros problème parce que les Z pensent que c'est eux qui vont décider, qui vont ouvrir le terrain, qui vont faire ceci, cela. Non, ils font rien du tout. Ils sont bien obligés de les prendre, les Z, parce que c'est eux qui arrivent.
Ah
Et c'est les Z qui imposent leur truc, quoi. Mais avec les plus vieux, oui, ça c'est un truc qu'on dit souvent en entreprise, si vous voulez que ça fonctionne, pour les formations entre autres,
Bien
c'est
sûr.
vous des couples jeunes-vieux, et ça fonctionne très bien, quoi, là.
Exactement. C'est ce qui avait été avancé avec ce qu'on appelait le coaching inversé, où les rencontres humaines sont riches. Et quand le respect se fait, ce sont vraiment des couples qui sont très importants pour eux dans leur parcours et qui s'influencent, même si après il y a des évolutions et que les gens font autre chose. Donc c'est passionnant. Ce qui est assez extraordinaire, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, c'est que finalement, donc que ce soit les générations Z, que ce soit les alphas ou les suivantes, finalement, ce sont juste des façons de faire qui sont différentes. Parce qu'il y a des attentes différentes, et donc il y a toujours cette curiosité, comme disait Iseu, quand on arrive à mobiliser les gens, les motiver, bah les jeunes sont prêts à nous suivre, et c'est ce qu'on a pu constater aussi, ils sont prêts à bosser comme des fous, à condition que ça ait une raison d'être, que c'est du sens, et qu'on ne se dise pas, chacun fait son boulot, bah, comme tu es payé à apprendre, bah, apprends, et là, effectivement, ça perd son sens. Autrement dit, c'est une bouffée d'optimisme pour la formation, non?
Il faut qu'elle soit bien faite après la formation.
Exactement. Donc, c'est pas mal de mettre les jeunes dans les groupes de formation de façon à ce qu'ils puissent repenser la pédagogie différemment.
Oui, puis que ça, enfin, que ça soit formateur aussi pour les jeunes, quoi, qu'on ait quelque chose à apprendre.
Et tenir compte de ce qui est très difficile, c'est de tenir compte et d'enregistrer ce qu'ils ont dit.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est tellement choquant parfois par rapport à ce qu'on en est que c'est énorme. Alors, on a des exemples comme ça avec des journaux. Des journaux qui étaient sur le déclin ou des choses comme ça. Je passe un journal en Australie. En fait, ils ont fait venir un groupe de jeunes comme ça un samedi matin en leur disant, bah voilà, vous avez la rédaction, faites ce que vous voulez avec le journal. Et le journal a cartonné du feu de Dieu. Et donc, en fait, ils ont embauché toute une équipe de jeunes qui travaillaient avec eux au fur et à mesure parce que ça n'a pas la même manière de fonctionner. Clara, qui est journaliste maintenant dans un grand groupe national, on va dire ça comme ça. Même chose quand elle était en alternance, c'était pour c'était Noël ou Nouvel An qu'il y a le mec qui était descendu, qu'elle donne des idées, tu sais, que personne n'osait rien dire.
C'était pour le Tour de France.
Pour le Tour de France, pour le suivi du Tour de France. Tu vois, tu as un chef de rédaction haut placé qui débarque dans l'agence où elle était. Et qui dit, bah voilà, pour le Tour de France, est-ce que vous avez des idées? Donc, tu as tout le monde dans son coin, Mogoubo. Et tu as Maclara, évidemment, qui n'a pas pu s'empêcher. Elle dit, bon, moi, j'ai quelques idées. Puis qui les a sorties. Donc, ils ont récupéré les idées qu'elle avait, parce que c'était d'une telle évidence que. Mais après, c'est la même chose, comme c'est des structures qui sont anciennes, qui sont hyper rigides et tout. Elle a défrayé la chronique, en quelque sorte, parce que dans un message, elle a mis des bullet points. Tu vois, elle a hiérarchisé des points.
Ils ont trouvé
Elle
ça
a
génial.
trouvé ça génial parce que personne n'y avait pensé chez eux. C'est du basique de basique, mais
Oui,
pour eux,
mais
c'est.
alors il faut avoir la possibilité d'abord de l'exprimer, tout le monde n'a pas ce caractère. Et puis surtout, c'est le fait d'avoir des structures qui valorisent ça. Quand
Ah
le
bah
chef dit
oui.
bravo, félicitations, c'est génial, bah, ça invite à le refaire une deuxième fois.
Ouais, enfin là, il n'y en a pas beaucoup, hein, de trucs valorisants.
Non.
Par rapport à ça, j'ai un autre exemple avec toujours une amie qui travaille dans un grand groupe. Elle s'est occupée du TikTok parce que enfin, elle travaille un peu comme moi, elle fait du community management, etc. Elle s'occupe de ça dans la boîte et elle a dit, bah, il y a 2 ou 3 ans, bah, je vais lancer le TikTok. Donc, elle a fait le TikTok. Au bout de 6 mois, le TikTok s'est fait pirater. Elle a dit, bah, là, on a référé à ses chefs, etc. Ouais, c'est pas grave, on s'en fiche, on verra plus tard, c'est pas grave et tout. Alors qu'elle avait quand même bien monté le TikTok, quoi. Ils étaient à, je sais pas, 15-20 000 abonnés quand même. Donc,
Ouais, quand
c'était,
même.
elle avait quand même bien réussi. Elle avait eu plusieurs vidéos qui avaient fait des millions de vues, etc. Et là, en fait, t'as la hiérarchie qui a dit, bon, bah voilà, cette année, on va se remettre à TikTok. Mais sauf que bah, le compte, il avait été piraté, etc. Elle en avait référé et elle n'a pas du tout été écoutée, quoi. Enfin, et c'est vrai que, bah, elle m'a dit, bah, j'ai complètement perdu espoir. J'ai dit, bon, bah, de la merde.
Bien sûr, il n'y a plus l'envie parce qu'on a massacré son énergie.
C'est ça.
Et moi, j'ai rajouté, comme c'est sur TikTok qu'on est, et que tout à l'heure, je parlais aussi de la réflexion des supérieurs dans ces cas-là. Il y a une région, moi, je crois que c'est une région, pas un département. Enfin, une région ou département. Un jour à une stagiaire et qui se sont lancés à faire du TikTok. Seulement TikTok, qui dit TikTok dit image personnelle. C'était une stagiaire. Donc, au bout de 2 ans, la stagiaire a dit, je m'en vais. Et donc,
Mmh.
c'était bien dans la mouise parce qu'il fallait trouver une solution.
Mmh.
Parce que, évidemment, Génération Z, elle ne voulait pas rester. Hein.
Mmh.
Donc voilà, mais on en retombe bien sur l'histoire de la réflexion qui est en amont ou pas. C'est-à-dire que c'est des
Exactement.
choses basiques, tu te dis, ben oui, si je fais du TikTok, qu'est-ce que je mets en avant? Qu'est-ce que... Et, donc elle était connue en plus.
Mais donc il faut avoir une stratégie, c'est ça la clé.
Ah
Oui.
ouais, clairement, clairement, c'est important d'avoir une
Ah oui,
stratégie.
sinon c'est indispensable.
Idem en formation, quoi.
Ben oui, c'est ça. C'est là où justement il y a une courbe d'apprentissage et simplement on sait où on va, on sait avec qui on va, en tout cas on l'espère, et puis après on travaille et on s'adapte en fonction. Mais si on mise tout sur une seule personne, ben, le jour où la personne s'en va, ben, tout s'effondre. Ouais.
Exactement.
Donc plein de belles choses. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'ai adoré. Donc j'espère que les auditeurs aussi vont picorer des idées, des angles, des façons de penser les choses. En tout cas, que ça va les nourrir. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Il n'y a pas de quoi.
À très bientôt. Bye bye.
Merci.